Très belle soirée à tous, le journal.
Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Le peuple israélien se rassemble autour du cercueil de l'ancien président Shimon Peres. Dans un instant, le reportage de notre correspondant à Jérusalem, Étienne Monin. Une jeune mère de famille belge revenue de Syrie raconte sa vie sous la coupe de l'État islamique. Laura Passoni a écrit un livre sur son expérience au cœur de Daesh avec mon fils. Lakshmi Lotha l'a rencontré. En France, le Sénat rejette l'amendement visant à élargir le délit d'entrave à l'IVG à certains sites internet. La ministre des Droits des femmes, Laurence Rossignol, est l'invitée de ce journal. C'est tout un peuple, ou presque, qui rend hommage à l'un de ces grands hommes. Environ 30 000 Israéliens se sont rendus aujourd'hui à la Knesset, le Parlement, pour se recueillir devant le cercueil de Shimon Peres. Une foule unie par la volonté de saluer la mémoire du prix Nobel de la paix, au-delà des clivages politiques. On retrouve notre correspondant à Jérusalem, Étienne Monin.
Et cette journée d'hommage symbolise l'entrée de Shimon Peres dans l'histoire. Elle a lieu sous un soleil cuisant, sous très haute sécurité. Le flux des anonymes est continu, mais on ne peut pas dire qu'il ait été massif. L'hommage a lieu derrière un cordon qui protège le cercueil. Il y a beaucoup d'enfants, la dernière génération qui aura connu Shimon Peres. Certains sont là en famille, d'autres comme Gilly sont venus avec leur classe et déjà une idée arrêtée sur l'homme d'État et l'homme tout court.
Il voulait, son idée c'était pour la paix. Et moi, je suis aussi pour ça. Je crois qu'il était un grand politicien. Nous tous, comme personnalité, on l'aime. Et pas toujours pour les mêmes idées politiques, mais pour le personnel, quoi.
Dans la foule, la plupart des personnes interrogées appartiennent au camp de la paix, mais on trouve aussi des adversaires des accords d'Oslo. Comme rarement, la Knesset est aujourd'hui un lieu de consensus où l'on ne voit pas d'abattement, mais une tristesse profonde, celle de Bill Clinton, les larmes aux yeux, venu se recueillir avant les obsèques devant le cercueil posé au bout de l'esplanade de la Knesset dont les drapeaux avaient été placés en berne.
Étienne Monin, demain de nombreux dirigeants, anciens ou actuels, seront donc à Jérusalem pour les obsèques de Shimon Peres. Barack Obama, Bill Clinton, le prince Charles ou le roi d'Espagne, et la liste est loin d'être exhaustive. Côté français, François Hollande et son prédécesseur Nicolas Sarkozy ont pris ce soir le même avion, un Falcon de la République française, pour se rendre en Israël. En revanche, un seul dirigeant arabe assistera aux obsèques, le président palestinien Mahmoud Abbas. La mort de Shimon Peres n'a suscité aucune réaction officielle en Égypte et en Jordanie, deux pays qui ont pourtant signé un accord de paix avec Israël. C'est un témoignage rare sur la vie sous l'emprise de l'État islamique. Laura Passoni, une jeune mère de famille belge, raconte son expérience dans un livre intitulé « Au cœur de Daesh avec mon fils ». Il y a 2 ans, cette jeune femme originaire de Charleroi part en Syrie avec son fils de 4 ans. Elle veut rejoindre son nouveau mari en zone djihadiste. Quelques mois plus tard, elle n'en peut plus et appelle au secours ses parents. Laura Passoni parvient à rentrer en Belgique. Condamnée par la justice, elle veut désormais mettre en garde celle qui serait tentée par le djihad. Lakshmi Lotha l'a rencontré.
Un chagrin d'amour et Facebook, voilà ce qui a conduit Laura Passoni en Syrie avec son fils de 4 ans en mars 2014. Des vidéos de propagande la font rêver.
Le recruteur m'a vendu du rêve, des fausses images qui font rêver. Par exemple, des femmes au marché, solidaires, la foire avec les enfants qui allaient à l'école. Je voulais aider le peuple syrien, je voulais être infirmière. Et je pensais que là-bas, c'était vraiment pour les aider et que les djihadistes étaient des héros. Donc je me suis dit, bah, après ma rupture aussi, je reprends ma vie à zéro là-bas.
Très vite, la jeune femme, enceinte d'un deuxième enfant, déchante et appelle ses parents pour l'aider à rentrer en Belgique.
Tout ce qu'il m'avait promis, c'était faux. Et puis moi, c'est beaucoup mon fils, en fait. Hein. Je voulais pas qu'il devienne terroriste, je voulais pas qu'il fasse un attentat suicide. Et puis tout ce qui est aussi moi, ma liberté, l'hygiène, on meurt de faim, je peux pas sortir quand je veux. On était vraiment libre qu'à procréer, à faire des enfants, à se taire. Et c'était pas la vie que je voulais.
Laura Passoni a passé 9 mois en Syrie. En mars dernier, elle a été condamnée à 5 ans de prison avec sursis par la justice belge et pense que l'on peut se déradicaliser. Elle témoigne aujourd'hui à visage découvert et espère dissuader, grâce à son livre, d'autres candidats au départ.
Le Sénat a rejeté aujourd'hui l'amendement du gouvernement destiné à élargir le délit d'entrave à l'IVG. Le texte visait à sanctionner certains sites internet hostiles à l'avortement, sosbb.org ou afterbest.com par exemple, des sites accusés de propager de fausses informations sur l'interruption volontaire de grossesse. Invité de ce journal, Laurence Rossignol, ministre des Droits des Femmes, bonsoir.
Bonsoir.
Laurence Rossignol, la majorité de droite au Sénat a donc rejeté votre amendement sur le délit d'entrave numérique à l'IVG au motif qu'il s'agirait d'un cavalier législatif. En clair, votre texte n'aurait aucun rapport avec le projet de loi sur l'égalité et la citoyenneté. Alors, quelle est votre réaction ?
D'abord, s'assurer que chaque jeune, chaque femme peut accéder à des informations fiables sur l'IVG, ça a un rapport très clair avec l'égalité et la citoyenneté. D'autant que l'amendement était rattaché à un article 17 qui concernait justement l'information des jeunes en matière de santé. La procédure qu'a utilisée le Sénat, l'irrecevabilité à l'égard d'un amendement gouvernemental, est exceptionnelle. C'est même une première. Jamais elle n'avait été auparavant utilisée. J'ai donc du mal à dissocier la forme du fond et je crois que l'utilisation de cette procédure sur cet amendement est en fait la volonté du Sénat de ne pas débattre de la question de l'accès à l'information en matière d'IVG.
Sur le fond, qu'est-ce que vous reprochez aux sénateurs de droite qui ont retoqué votre amendement ?
Ce qui me désole, c'est que le Sénat ait fait le choix de ne même pas en discuter, de ne pas délibérer. Cet amendement aurait dû être débattu en séance. Après, le Sénat, dans sa grande sagesse, aurait choisi de l'adopter ou non. Mais je crois que lorsqu'on observe les contenus, quand on connaît les informations qui sont diffusées sur ces sites, il y a de quoi débattre au Parlement.
Alors, quel avenir maintenant pour votre amendement ? Est-ce que vous allez le proposer à l'Assemblée ?
Alors, comme cette mesure relative aux fausses informations sur des fausses sites d'information sur l'IVG, qui sont en réalité des sites militants anti-IVG, m'avait été donné et j'avais été alertée auparavant à la fois par des associations mais aussi par des parlementaires, des députés, ont proposé de déposer une proposition de loi dans les meilleurs délais. Il y aura un examen de cet amendement ou de cet article de proposition de loi dans les semaines qui viennent.
Laurence Rossignol, justement, la contestation de l'avortement est légitime en France. On a le droit d'exprimer son opposition à l'avortement. Alors qu'est-ce que vous reprochez à ces sites ?
Être hostile à l'avortement est une opinion que l'on peut exprimer par tout moyen. Et je n'ai aucune difficulté à admettre que ceux qui sont hostiles à l'IVG puissent donner leur point de vue philosophique, religieux sur l'IVG. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'ils attirent des jeunes femmes, des jeunes filles sur leur site. Prenons les choses de manière concrète. Une jeune femme qui a un retard de règles et qui veut des informations sur l'IVG. Comment ça se passe, quelles sont les méthodes, aspiration, IVG médicamenteuse, quels sont les délais dans lesquels on peut recourir à chacune des méthodes, comment est-ce remboursé. Elle va aller sur Internet, elle va taper IVG. Il y a 4 chances sur 5 pour que le premier site qu'elle trouve, ou un des premiers sites qu'elle trouve, soit un site qui ait toutes les apparences d'un site d'information et qui, en réalité, ne distille pas des informations, mais va essayer de la convaincre, de la culpabiliser, de lui présenter l'IVG sous une forme très traumatisante ou alors très culpabilisante.
Oui, mais est-ce que c'est un délit ? Est-ce que c'est un délit à partir du moment où on est hostile à l'avortement ?
Moi, je n'ai aucun problème à ce que les gens qui sont hostiles à l'avortement disent qu'ils sont hostiles à l'avortement, mais qu'ils le disent sur leur site. Qu'ils disent « Bonjour, vous rentrez sur un site de militants anti-IVG, vous êtes sur le site de telle association qui milite depuis 1975 pour l'abrogation de la loi Veil. » Mais que l'on dise à des femmes « Vous venez d'entrer sur un site d'information sur l'IVG, la contraception, SOS grossesse, etc. » Et à ce moment-là, on leur dit des choses fausses. Par exemple, quand je lis que la pilule du lendemain, la contraception d'urgence, est en réalité une méthode abortive, c'est faux, c'est scientifiquement faux. Quand je vois des documents qui circulent avec des fœtus qui ont environ 7 ou 8 mois, et en dessous il est écrit « j'entends tout », c'est objectivement faux puisque les délais légaux de l'IVG, c'est 12 semaines. À 12 semaines, un embryon ne ressemble pas à un fœtus de 8 mois. Et son oui n'est pas formé puisque l'oui se forme à 26 semaines. Donc ceci, c'est un ensemble de fausses informations, de mensonges, et ça a un but, faire pression sur les femmes pour qu'elles renoncent à l'IVG. L'IVG est un droit.
Et comment on sanctionne alors ces sites ? Est-ce qu'on les ferme ?
Alors, il existe déjà dans le droit pénal le délit d'entrave à l'IVG. Ce délit d'entrave, il avait été créé en 1993 lorsque les militants anti-IVG avaient pour habitude de s'enchaîner aux portes des cliniques ou des services hospitaliers. Et le délit d'entrave a mis fin d'ailleurs à cette pratique. Ensuite, ces militants se sont déplacés, ils sont rentrés dans les services hospitaliers et ils ont été faire pression soit sur les personnes, soit sur les femmes. Nous avons à ce moment-là élargi le délit d'entrave en 2014. Maintenant, ils se sont déplacés sur Internet. Là où ils vont, nous les suivons et nous étendons le délit d'entrave aux faux sites d'information sur l'IVG et à ces sites qui ont pour vocation de faire pression sur les femmes, de les dissuader de recourir à l'IVG.
Mais et donc, l'objectif, c'est de fermer ces sites?
Non, l'objectif, c'est qu'ils annoncent qui ils sont, qu'ils s'assument comme sites militants anti-IVG, qu'ils ne se dissimulent pas en sites d'information sur l'IVG.
Laurence Serossignol, ministre des Droits des Femmes, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Quelques milliers de retraités ont manifesté aujourd'hui un peu partout en France pour demander une revalorisation de leur pension. À Paris, ils étaient 5000 selon les syndicats, 1100 pour la police. Le gouvernement a d'ores et déjà opposé une fin de non-recevoir aux manifestants. Les retraites ne seront pas revalorisées parce que l'inflation est faible, voire nulle. C'est en tout cas l'argument du secrétaire d'État au budget, Christian Eckert. Paris risqué pour le gouvernement, car de nombreux retraités pourraient s'en souvenir dans les urnes l'an prochain. Sur le poids électoral des retraités, le commentaire de Jean-François Dorido, directeur général de l'Institut Ipsos Public Affaires.
Les retraités, c'est une population qui pèse de plus en plus à chaque scrutin, qui pèse environ quand même 30% déjà du corps électoral, mais qui en plus a la caractéristique de davantage voter que les jeunes générations. Donc aujourd'hui, on peut dire que dans la présidentielle de 2017, le vote des retraités pèsera pour un tiers dans le vote. Donc c'est une cible très importante et c'est une cible qui a toujours eu à peu près la même caractéristique, justement par un vote un peu plus à droite que la moyenne. Par exemple, lors de la dernière présidentielle, ils avaient voté au second tour Nicolas Sarkozy à 57%, François Hollande simplement à 43%, donc en gros 10 points de plus pour Nicolas Sarkozy que la moyenne des Français.
Ça veut dire que c'est un électorat plutôt conservateur, mais qui reste modéré pour l'instant, pas de tendance vers le Front National Marine Le Pen?
Alors si, je veux dire, quand le Front National pèse entre 25 et 30% des votes sur l'ensemble des Français et que les retraités pèsent un tiers, forcément cela veut dire qu'il y a des retraités qui votent Front National. Ils votent un tout petit peu moins que la moyenne. Par exemple, dans notre dernière intention de vote, premier tour de la présidentielle, on avait auprès de l'ensemble des Français Alain Juppé en tête avec 34% et Marine Le Pen avec 30%. Chez les retraités, ça donne Alain Juppé plus élevé à 40% et Marine Le Pen un peu moins élevé, mais tout même à 26%.
Jean-François Dorido de l'Institut Ipsos répondait à Bénédicte Robin. On va terminer ce journal avec l'ouverture demain à Paris du Mondial de l'Automobile. Le secteur semble sortir de la crise avec une hausse régulière des immatriculations. On en attend 2 millions en France cette année, un niveau jamais atteint depuis la crise de 2008. Pour rester sur cette dynamique, les constructeurs comptent développer la voiture électrique et Renault est en pointe dans ce domaine avec la Zoé, le modèle électrique le plus vendu en France. Hakim Kasmi, l'autonomie de la nouvelle Zoé a été multipliée par deux. Elle pourra parcourir d'une seule traite plus de 300 km. Et ça, Hakim, c'est une petite révolution.
C'est une véritable avancée quand on sait qu'aujourd'hui, 58% des Français ne veulent pas de voiture électrique à cause de l'autonomie. Avec 300 km en autonomie réelle, on peut donc commencer à penser à partir en week-end. Car les utilisateurs des Zoé, très peu encore aujourd'hui en Europe, ils ne sont que 19 000, l'utilisaient surtout comme véhicule d'appoint pour partir au travail ou bien faire les courses. Alors si Renault a pu atteindre une telle performance, c'est notamment grâce à de nouvelles batteries, comme l'explique Carlos Ghosn, le PDG du groupe Renault-Nissan.
C'est un travail que nous avons fait avec un de nos fournisseurs de batteries, qui est Elgi Chemical. Et donc, c'est une nouvelle batterie qui est mise, qui finalement a exactement la même taille que l'ancienne, mais qui permet, compte tenu des évolutions technologiques que nous avons pu développer avec eux au cours des dernières années, de doubler l'autonomie. Donc, pour tous ceux qui se préoccupent d'émissions, il n'y a qu'une solution, c'est la voiture électrique.
Alors, qui dit plus performant, dit aussi plus cher. La nouvelle Zoé coûtera 1 500 € de plus, une augmentation qui sera en partie compensée grâce au bonus écologique de l'État, qui atteindra jusqu'à 6 300 € et même 10 000 € si vous vendez une vieille voiture diesel de plus de 10 ans. Mais pour autant, si Renault se targue d'avoir pu augmenter son autonomie, aujourd'hui dans le marché mondial des voitures électriques, il existe déjà des constructeurs capables d'atteindre les 500 km. C'est par exemple le cas de l'américain Tesla, sauf que pour l'instant, sa Model S reste réservée à une clientèle très fortunée car elle coûte tout de même entre 60 000 et 80 000 euros. Le constructeur californien, dont le patron est très connu, Elon Musk, a toujours voulu démocratiser la voiture électrique. C'est pourquoi, à partir de l'année prochaine, il sortira un modèle bien moins cher, hein, 35 000 dollars. Mais attention, à ce prix-là, vous ne pourrez pas faire 500 km, on ne peut pas tout avoir.
Hakim Kasmi, merci. Le temps demain, ciel perturbé sur le centre du Poitou-Charentes à la Champagne avec de faibles pluies. Cette perturbation se décalera vers le sud en fin de journée. Partout ailleurs, un temps variable entre nuages et éclaircies. Température maximale en légère baisse, 18 à 24 degrés au nord, 22 à 28 au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec François-Charles Domergue.